demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 19 octobre, quelques 2000 personnes se sont réunies hier dans le centre-ville de Lyon, devant la préfecture notamment, à l'appel de l'intersyndicale pour la grève interprofessionnelle. Des manifestations avaient lieu également dans d'autres secteurs de la ville. Le groupe socialiste, écologiste et démocrate à la région Auvergne-Rhône-Alpes saisit le tribunal administratif de Lyon après que Laurent Wauquiez ait décidé d'imposer la tenue des débats de l'assemblée plénière en visioconférence en cette fin de semaine. 11 départements au moins devraient bénéficier du régime calamité agricole, parmi lesquels le département du Rhône. Les futurs ateliers de la danse de Lyon seront livrés en 2025 et ils seront réalisés en pisé. Nous parlerons également de la cité de la gastronomie, un nouveau projet doit être présenté demain par la métropole de Lyon. En attendant, nous sommes allés voir à Dijon comment se porte la cité de la gastronomie et du vin. Et puis les filles de l'Olympique Lyonnais ont rendez-vous avec Arsenal ce soir à 21h au Groupama Stadium, tandis que l'ASVEL hier n'a pas fait le poids contre Fenerbahçe en basket.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. 2200 personnes précisément se sont réunies hier après-midi devant la préfecture à l'appel d'une intersyndicale, déclinaison locale de la grève interprofessionnelle. Cheminots, soignants, enseignants, également salariés des raffineries ou de l'énergie avaient répondu à l'appel. Outre les augmentations de salaire et leur indexation sur l'inflation, les manifestants ont réclamé pêle-mêle la fin des super-profits, le maintien du bouclier tarifaire énergétique, la fin des réformes du chômage et des retraites ou encore la réintégration des soignants non vaccinés et la préservation du droit de grève. Devant l'université Lyon 2, ce sont des étudiants qui se sont rassemblés en soutien aux sans-fac. Dans le 8e arrondissement, une délégation CFDT du secteur privé de la santé a été reçue au MEDEF du Rhône. Une centaine de membres de personnel manifestaient devant l'hôpital Mermoz pour une revalorisation générale des salaires. Enfin, place des archives, les agents de nettoyage de la gare routière de Perrache ont également manifesté. Le groupe socialiste, écologiste et démocrate de la région Auvergne-Rhône-Alpes saisit le tribunal administratif de Lyon dans le cadre d'un référé libéré, et ce après que l'exécutif régional a décidé d'imposer la tenue des débats de l'assemblée plénière en visioconférence uniquement cette fin de semaine. Le groupe d'opposition dénonce les dérives autoritaires et les pratiques antidémocratiques du président Wauquiez. Fin de citation. Une attachée territoriale du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes placée en garde à vue hier matin à Lyon, et ce dans le cadre de l'affaire sur le chantage présumé à la vidéo intime dans laquelle le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, est impliqué. Le cabinet de Laurent Wauquiez a confirmé la perquisition du local professionnel de cette chef de projet de la direction Jeunesse et Sport. Elle est soupçonnée d'avoir fourni la caméra qui a été utilisée pour filmer la vidéo intime. Elle aurait assuré ne pas savoir à quoi elle était destinée. À sa garde à vue, en tout cas, a été levée hier en fin de journée. Ce chantage à la sextape visait l'ancien premier adjoint centriste Gilles Artigues.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
11 départements au moins devraient bénéficier du régime calamité agricole. Parmi les départements concernés, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, la Loire ou encore le Rhône, les agriculteurs des 11 départements concernés vont bénéficier d'une indemnisation rapide au titre des calamités agricoles pour les dégâts causés par la sécheresse estivale, en particulier sur l'élevage. Des versements d'acompte seront initiés dès le mois de novembre. Les urinoirs expérimentaux qui avaient été placés par la ville et la métropole sur certains lieux publics, comme les quais bas du Rhône ou la place Louis Pradel, ont été retirés après 6 mois d'expérimentation. Il y avait 7 urinoirs féminins, 7 pour les hommes et également 2 toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite. La ville et la métropole dressent le bilan. 435 000 litres d'eau ont été économisés et 43 hectares de champs fertilisés puisque les urines étaient collectées et valorisées. Selon une enquête de satisfaction, 94% des personnes interrogées se seraient dites satisfaites des emplacements choisis et la quasi-totalité ont jugé l'état de propreté très bon. Ces sanitaires sèches étaient entretenus tous les jours par une entreprise spécialisée, les Gandousiers. La collectivité réfléchit maintenant à une solution pérenne pour satisfaire ce besoin en sanitaire, un besoin bien naturel. Les futurs ateliers de la danse de Lyon seront livrés en 2025, un investissement de 18 millions d'euros, dont plus de 6 millions financés par l'État, dans le projet de l'îlot Kennedy, qui doit accueillir un nouveau groupe scolaire et un complexe sportif à l'horizon 2026. À l'intérieur, 2 studios pouvant recevoir 140 personnes, ainsi qu'une salle de création-diffusion d'une capacité de 450 spectateurs. Le toit pourra être utilisé également comme espace de création artistique. Le bâtiment sera réalisé en pisé. Ce sera le plus grand bâtiment de France, en pisé d'ailleurs, avec des murs de 80 cm d'épaisseur qui offriront un confort thermique pour la pratique de la danse. Les travaux doivent débuter au printemps 2024.
Lyon demain, Découverte.
Le nouveau projet pour la Cité de la Gastronomie doit être présenté demain par la métropole de Lyon, un projet initié par l'équipe Colomb, mais qui a complètement capoté en 2020 en raison du Covid, mais pas seulement. Avant d'en savoir plus sur l'avenir de notre SIG à l'Hôtel Dieu, nous avons décidé d'aller trouver l'inspiration chez nos voisins bourguignons, car plusieurs projets en France avaient reçu, on s'en souvient, le label Cité de la Gastronomie. Et à Dijon, la Cité de la Gastronomie et du Vin connaît un franc succès. C'est Gaël Bossier qui s'est rendu sur place.
La ville de Dijon, avec sa cité internationale de la gastronomie et du vin, semble réussir son lancement où Lyon a échoué. La clé du succès est à chercher du côté du partenariat public-privé qui fonctionne en bonne intelligence, chacun comprenant ce que l'autre peut apporter à un projet aussi ambitieux. On écoute Mathieu Honorat, directeur du village au sein de la cité de la gastronomie de Dijon. Quel est le premier bilan d'étape après la moitié d'une année d'exploitation de cette cité? Parce qu'on peut le dire, il y a bien sûr une dimension patrimoniale, mais il y a aussi une dimension commerciale.
Je parlerai du commercial puisque le village gastronomique est une entité qui présente les produits français, soit en direct du producteur ou soit sélectionnés par des meilleurs ouvriers de France. Et je tiens à dire que quand on entre dans la cité de la gastronomie, on apprend que bien manger de bons produits, c'est ouvert à tous, il suffit simplement qu'on me l'explique. Et cette dose de pédagogie est très importante puisqu'aujourd'hui, on est, oui, un centre commercial alimentaire, mais il est notre dose qui est expliquer les produits, d'où viennent-ils et pourquoi ils ont été choisis, qu'est-ce qu'un meilleur ouvrier de France, comment peut-on manger des produits, etc., etc. Bilan au bout de 6 mois d'exploitation, même si on travaille depuis plus longtemps que ça dessus. Très bon retour. On est à un petit peu plus de 200 000 visiteurs hors week-end inaugural. On a des chiffres qui sont en progression depuis le départ, avec beaucoup de visites de touristes européens et du monde entier, mais à noter les Européens, qui corroborent avec les chiffres de l'Office de Tourisme. Aujourd'hui, on arrive donc en fin d'été. L'automne est quand même bien entamé. L'objectif, Dijon et ses habitants, Dijon et sa métropole.
Donc effectivement, faire venir du tourisme semble aller de soi quand on est à Dijon, parce que finalement c'est un territoire qui se vend bien à l'étranger. Mais gagner l'adhésion en fait du Dijonais, ça c'est un vrai défi. Et comment vous allez relever en fait ce défi? Grâce notamment, je crois, à la collaboration de la ville qui est très active, notamment sur ce sujet.
Bien entendu, on a cette chance à la Cité internationale de la gastronomie et du vin d'avoir différentes entités, dont le pôle culturel de la ville de Dijon. C'est un projet qui a été créé par la ville, il ne faudra jamais l'oublier, c'est un projet qui est porté par la ville de Dijon et qui aujourd'hui, sans la ville de Dijon, on ne pourrait pas avancer. Donc oui, c'est trouver des actions communes, s'adresser de manière commune aux Dijonais et rappeler aux Dijonais que ce lieu est le leur. Je ne reviendrai pas sur les épisodes passés, mais ce lieu est le lieu des Dijonais, il faut qu'ils s'en emparent. C'est un ancien quartier de Dijon, puisque historiquement on est sur le site de l'hôpital. C'est un nouveau quartier de Dijon qui est moderne, qui propose une offre qu'on voit dans les grandes capitales européennes et mondiales. On a la chance d'avoir ça à Dijon. Aujourd'hui, on met en place des produits, des façons de se restaurer qui sont grâce au retour des Dijonais. Donc, le but, c'est de créer des événements, de créer une offre dédiée aux Dijonais. On a aujourd'hui le brunch tous les dimanches, les brunchs de la cité qui sont là tous les dimanches au sein de la Cité de la Gastronomie et du Vin. Donc, vous avez un brunch ici à la cuisine expérientielle. Il y en a un autre à la cave qui est juste à côté. Le but, c'est de proposer différentes offres, mais pour tous les palais et tous les budgets. Après, on est en train d'imaginer un événement récurrent annuel autour de la gastronomie, bien sûr. Je pense Lyon Street Food Festival, pardon, au Taste of Paris. Proposer quelque chose de différent, mais récurrent autour d'aliments.
Je sais aussi que vous allez créer régulièrement des événementiels. Je pense par exemple à Noël, mais là, je vois qu'il y a la construction de petits chalets. Donc, vous accueillez l'Italie aussi au sein même du village. Est-ce que c'est important aussi de créer régulièrement des rendez-vous?
C'est essentiel. Il faut créer des rendez-vous ponctuels, différents, sensés, c'est-à-dire autour de la gastronomie. À partir du 20 octobre, on reçoit la ville de Reggio Emilia, qui est donc une ville jumelée à la ville de Dijon. On peut faire ce parallèle village gastronomique aussi et village gastronomique italien de Reggio Emilia. Le but, c'est qu'on ait tous les mois minimum une animation qui attire les Dijonais et la métropole. On vient d'avoir Chaud les Papilles, organisé par la ville de Dijon au sein de la Cité de la Gastronomie. C'est un record. C'est 12 000 personnes qui sont passées dans la cité, 6 000 à l'instant T, sur l'ensemble de la cité. Noël arrive, on a des chalets. Le but, c'est de proposer une étape supplémentaire à la ville de Dijon et non pas une étape concurrentielle au centre-ville.
Il y a 8 commerçants, peut-être plus. Alors, sans compter bien sûr le cinéma, peut-être en mettant de côté la cave, on va en parler parce qu'elle est exceptionnelle. Est-ce qu'on peut décrire les propositions, puisque les propositions ne se font pas concurrence entre elles. Donc ça aussi, c'était important dans le choix des commerçants.
Qu'il y a 8 cellules commerciales qui appartiennent au village gastronomique, plus une 9e qui est la cuisine expérientielle, lieu où nous sommes. Il y a aussi la librairie gourmande et le Bamagotchi, la cave de la cité, le comptoir de la cité, qui constituent le village gastronomique. Quand on parle des 8 cellules dont vous parliez, ce sont les cellules qui appartiennent au village gastronomique exploitation, la société mère. Ce sont des cellules où des managers et des équipes appartiennent directement au village gastronomique exploitation. Ce sont autant d'emplois qui ont été créés par le groupe Carré William Krief en créant la société. Une fois qu'on a dit ça, chacune des boutiques a un univers différent puisqu'on recrée un marché, des halles couvertes où il y a un food court où dans chacune de ces boutiques je peux me restaurer.
Alors un autre lieu bien sûr que je viens de visiter, la cave, exceptionnelle, hein, 3000 références, pratiquement 220 en fait à goûter au verre, enfin c'est totalement exceptionnel. Vous avez un partenaire qui a particulièrement investi les lieux avec une offre extrêmement novatrice. Donc ça aussi c'est important pour un village comme le vôtre d'être novateur en matière de proposition.
Oui, l'expérience. Ma phrase du départ, la pédagogie, l'expérience, vivre un moment. Installer une cave à Dijon, installer une cave en Bourgogne, c'est pas facile, j'imagine, je l'ai pas fait et je les remercie de l'avoir fait. En plus, avec ce type de référence, la beauté des lieux, c'est une cathédrale du vin. C'est, alors, cathédrale, vin, on en pense qu'on en veut, mais c'est vraiment le mot que j'aime dire. Un système de dégustation qui est novateur, en tout cas à Dijon, avec un système de cartes prépayées où vous allez goûter 2 centilitres, 5 centilitres, 12 centilitres, des vins qui vont de 4 euros le verre à des Romanée Conti, me semble-t-il, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, au moins le domaine de la Romanée Conti est présent. Ensuite, on a le manège à moutarde. Le manège à moutarde propose le robot qu'on a appelé Moutardator, qu'on a renommé ainsi. Vous vous prenez en photo sur un photobooth, donc en selfie, et automatiquement, vous voyez le robot se mettre en marche, remplir de la moutarde et installer votre photo sur le pot.
C'est effectivement une petite touche, mais également une première mondiale, c'est-à-dire que ça n'existe nulle part ailleurs. C'est vraiment l'idée en fait, de faire venir le robot de l'usine dans la boutique. Donc ça crée aussi une façon différente peut-être de penser les choses. Le pot est réutilisable, ça aussi on est un peu dans cette idée d'une dimension plus écologique aussi de la consommation. C'est un pot en grès, donc il faut rappeler que traditionnellement la moutarde c'est dans un pot en grès, donc il y a bien en fait cette idée de re-remplir en fait son pot et de le conserver.
Exactement, il y a cette idée de surfer aussi sur la mode avec ce pot en grès qui peut paraître vintage, mais finalement qui revient de plus en plus à la mode. En plus, on le rend un petit peu plus kitsch avec notre photo dessus, mais c'est le clin d'œil.
En visitant cette cité inspirante et en parcourant des expositions consacrées au repas des Français, à la pâtisserie et au patrimoine de cet ancien hôpital datant de 1204, je me mets à rêver d'une cité gastronomique lyonnaise à nouveau active dans l'Hôtel Dieu qui lui sert d'écrin. L'actualité fait bien les choses et peut-être peut-on y voir un signe d'un futur redémarrage de la cité de la gastronomie à Lyon. Du 21 octobre au 5 novembre, au sein de l'Hôtel Dieu et dans les 4000 m² d'exposition de la cité, le public pourra visiter l'exposition « Banquet », présentée pendant plusieurs mois à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Une occasion de retrouver le goût des bonnes choses et les espaces d'exposition de l'ancien Hôtel Dieu. Rendez-vous donc à partir du 21 octobre prochain.
Merci Gaëlle. La deuxième édition de Lyon pour le bien commun a permis de lever plus de 662 000 euros de dons. 10 initiatives d'entrepreneurs sociaux qui agissent sur le territoire du Rhône vont pouvoir en profiter, comme par exemple l'association Entourage, Chez Daddy ou encore les petites cantines. 900 personnes se sont réunies lundi soir au Palais des Congrès pour cette soirée autour de la philanthropie. Un mot de sport en basket. L'ASVEL n'a pas fait le poids contre Fenerbahçe. Villeurbanne a concédé hier soir une lourde défaite sur le terrain d'une des plus grosses écuries de l'Euroleague. 84 à 63. 10 000 spectateurs sont attendus au Groupama Stadium ce soir à 21h pour le match d'Euroleague OL-Arsenal. Ce sont bien sûr les filles qui jouent la compétition européenne. Les garçons pourront bien sûr les regarder à la télé ou en tribune. L'Olympique lyonnais et le coach néerlandais Peter Bos ont trouvé un accord, un terrain d'entente en tout cas, après son remplacement par Laurent Blanc le 9 octobre. après le match nul à domicile contre Toulouse qui faisait suite à 4 défaites consécutives. L'Olympique Lyonnais avait annoncé la mise à pied à titre conservatoire de l'entraîneur adjoint et du préparateur physique. Les modalités de l'accord n'ont pas été divulguées. Peter Bose à l'Olympique Lyonnais, c'est 58 matchs pour un bilan de 27 victoires, 16 nuls et 15 défaites. Peu de chance pour que son nom reste dans les annales du club. Merci en tout cas d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain pour un prochain épisode.